Quelques secondes, le monde féminin.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin.
Parole de femme.
Chantal Mutamuriza, vous êtes fondatrice et directrice de Light for All, une association qui soutient des Burundais réfugiés en Ouganda. Vous êtes à Kampala. Vous êtes également fondatrice de ACAT Burundi, qui est l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Comment vous en êtes arrivée à vous consacrer entièrement à cette cause, hein, la défense des droits humains et en particulier des femmes et des enfants?
Merci beaucoup Nathalie. Donc voilà, je suis une juriste, mais j'ai une expertise en droit international des droits de l'homme. Et j'ai étudié au Burundi, à l'université du Burundi, en faculté de droit. Et puis je me suis spécialisée en droit international. Puis parmi la génération qui n'a pas vraiment connu de répit, j'ai étudié pendant la grande crise au Burundi, des années 90 jusqu'à 2000 et plus. Quand on étudie dans ces conditions, on a vraiment envie de faire une différence dans la vie des gens. Il y a aussi une partie de mon histoire personnelle qui fait que j'ai toujours cherché à m'impliquer dans la vie des gens. Et donc, avec d'autres amis, on a fondé une toute petite association qui s'appelait Association pour la promotion de la fille burundaise, avec quelques universitaires. Et puis, j'ai créé ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Elle n'est plus au Burundi maintenant et elle opère en exil. J'ai choisi un chemin assez spécial, on va dire, parce que je me suis engagée directement dans l'activisme pour militer pour les droits des prisonniers, pour défendre les victimes des violences sexuelles, etc. Et donc, en 2007, où j'ai eu un emploi en Suisse pour une ONG internationale qui s'appelle le Service international pour les droits de l'homme. Après, je suis allée travailler à l'Union africaine au Mali pour une mission de maintien de la paix après les événements qui se sont passés au Mali à partir de 2012. Quoi, tu fais vraiment un résumé ça, mais je dois dire que la motivation première pour m'engager dans la défense des droits humains, ce sont les crises que j'ai vues au Burundi. Quand il y a une crise politique, il y a un conflit armé, ce sont les enfants et les femmes qui souffrent en premier. Et je crois que ça vient de là.
Chantal Mutamuriza, on va revenir sur tous ces points-là que vous avez évoqués. Vous êtes donc la présidente de cette association Light for All en Ouganda, qui soutient donc des réfugiés burundais. Combien est-ce qu'on a de réfugiés burundais là-bas encore aujourd'hui?
D'après les statistiques du Haut Commissariat pour les réfugiés, on a à peu près 50 000 réfugiés burundais en Ouganda, dont à peu près 40 000 et plus se trouvent dans un camp de réfugiés à Nakivale, c'est à l'ouest de l'Ouganda.
Quel type de soutien vous apportez en particulier donc à ces personnes réfugiées qui viennent de votre pays natal, le Burundi?
Light for All est active en Ouganda depuis 2017. Depuis le début, on a commencé à appuyer la scolarisation des enfants réfugiés. Parce que moi, quand je suis arrivée en Ouganda, ici, j'ai trouvé que c'était quand même une catastrophe de voir que les enfants n'allaient pas à l'école ou alors ce qui arrivait à aller à l'école, interrompu au cours de l'année. Et donc, on a commencé à sponsoriser les enfants. Je cherche des sponsors, des personnes privées. Et puis, on match un enfant avec un sponsor. Donc, ça, c'est tout au début. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres problèmes. Des cas des victimes de violences sexuelles qui n'ont jamais eu de soutien. Donc, j'en suis arrivée à m'intéresser à cette question. Et donc, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a produit un documentaire et où on a interrogé 6 femmes qui ont donné des témoignages. On vient de faire, d'ailleurs, une étude globale de 4 camps de réfugiés, y compris celui de l'Ouganda, celui du Rwanda. et du camp de la Tanzanie, où on a interrogé quelques victimes, au moins une centaine, pour qu'elles puissent raconter leurs histoires. Et donc, en Ouganda, nous sommes en train d'apporter de l'appui psychosocial à quelques victimes de violences sexuelles. Et en même temps, on essaye de leur donner des moyens de pouvoir se prendre en charge. C'est-à-dire qu'on a lancé des projets d'autonomisation économique. Jusqu'à présent, c'est vraiment à petite échelle, mais on compte le faire à grande échelle dans les années à venir, voire dans les mois à venir. En dehors des victimes de violences sexuelles, on a aussi commencé à Kampala à donner de petits microcrédits à quelques familles, surtout les femmes, les parents des enfants qu'on soutient.
En ce qui concerne l'autonomisation des femmes, vous avez cité des programmes en particulier. Quel type d'activité vous proposez notamment aux femmes avec des microcrédits? Est-ce qu'il y a des activités particulières?
Là, pour le camp de réfugiés de Naki Valley, on leur donne la chance de proposer ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, à Naki Valley, ils ont commencé un projet de poulailler, donc élevage de poules. C'est ça le projet qui est en cours. Puis aussi, on leur a donné un générateur pour pouvoir commencer des projets d'agriculture pour arroser, en fait, dans les champs, comme c'est un endroit qui est assez sec. Donc, on leur soutient dans ces petits projets comme ça.
Vous venez de parler d'agriculture. Oui. On sait que ce sont des réfugiés burundais qui sont sur le territoire ougandais. Est-ce que cela veut dire qu'ils ont droit à certaines terres dans le pays?
Oui, alors la particularité de l'Ouganda, c'est un pays quand même qui est assez accueillant. En Ouganda, quand un réfugié arrive, on lui donne un lopin de terre. La personne peut choisir de cultiver ses terres ou alors de construire une maison si la personne en a les moyens. Mais sinon, il y a moyen pour les réfugiés de louer des terres et puis de cultiver. Donc en Ouganda, les réfugiés ont le droit de travailler comme les Ougandais.
Le fait qu'ils puissent accéder à des terres, est-ce que cela permet notamment au pays d'avoir une agriculture vivrière, prospère? Est-ce que cela permet à plusieurs personnes de cultiver des terres qui sont peut-être à l'abandon ou autre?
Cela permettrait, mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand même, l'Ouganda, c'est un pays en voie de développement comme beaucoup d'autres pays. Malgré toute la bonne volonté, les moyens ne suivent pas toujours. Les Ougandais eux-mêmes n'ont pas toujours les moyens de se permettre tout cela. Et donc, si les réfugiés avaient accès aux ressources, je dois dire peut-être les ressources financières, disons les microcrédits, les semences et tout ça, les réfugiés pourraient contribuer justement à l'économie de l'Ouganda au lieu d'être un fardeau.
Vous essayez d'une certaine manière de leur donner plus de moyens pour qu'ils puissent exploiter ces terres et les rendre rentables.
Exactement, c'est à cela qu'on aspire. Je ne pourrais pas dire qu'on l'a déjà fait, mais on aspire à cela et on est en train de mobiliser les moyens pour justement donner aux réfugiés les intrants, les ressources, la technologie qu'il faut pour pouvoir justement utiliser ces terres. Je peux vous dire que, par exemple, un réfugié dans le camp de réfugiés de Naki Valley se trouve les Burundais, la majorité des Burundais et des Congolais aussi. On leur donne 13 000 shillings ougandais, ça c'est l'équivalent de 3 dollars par mois. C'est impossible de vivre avec ça. Donc nous, ce qu'on aimerait faire, et c'est vraiment notre plaidoyer, c'est qu'on leur donne les moyens de pouvoir vivre comme tous les autres, parce que il y a la terre, elle est là, mais il faut qu'ils aient les moyens.
Chantal Mutamuriza, alors dans ces camps de réfugiés, on a un problème récurrent, le problème universel, on va dire. Les femmes, les filles sont aussi victimes de violences sexuelles. Qu'est-ce qu'il est fait pour les protéger? Et vous, au sein de votre association, comment vous procédez pour leur assurer, un tant soit peu, une protection et un soutien?
Nous, le problème dont on s'occupe, c'est les violences sexuelles liées au conflit. Alors, les violences sexuelles liées au conflit, c'est pas nécessairement ce qui se passe dans le camp. Qui s'est passé avant de fuir les traumatismes, quand les femmes sont victimes de viols en masse et qu'ils arrivent au camp et qu'ils ne sont pas pris en charge. C'est vraiment ce problème dont on s'occupe en particulier. Tout en sachant que si on arrive à prendre en charge ces femmes qui ont été victimes de violences sexuelles dans le cadre du conflit, on peut aussi s'occuper après des violences sexuelles qui se passent dans le camp. Mais la cause principale des violences sexuelles qui se passent dans les camps, c'est beaucoup plus la misère, c'est la pauvreté. Comme les filles n'ont pas accès aux ressources, interrompent l'école très tôt, parfois ne vont même pas à l'école, les femmes n'ont pas les moyens, et donc elles deviennent le proie de tout le monde. Voilà, le sexe de survie. Et donc, on leur propose des services moyennant. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'on fait, ça, c'est l'autonomisation. Ça revient toujours à l'autonomisation économique, tout en sachant qu'une femme qui est en contrôle de sa vie, de son économie, qui sait ce qu'elle peut s'acheter à manger, qui peut nourrir ses enfants, elle va être en mesure de se défendre contre les attaques externes.
Chantal Moutamouriza, sur un autre registre, mais toujours dans cette même problématique de la violence basée sur le genre, vous-même, vous avez été victime de harcèlement en ligne, on va dire basé sur le genre également. Pourriez-vous nous dire un mot sur cette histoire ?
C'est une longue histoire, mais je vais essayer d'être brève. C'est dans le cadre du conflit politique qui a eu au Burundi depuis 2015. Et quand les Nations Unies ont mis en place une commission d'enquête indépendante, comme les autorités à l'époque n'étaient pas d'accord par rapport à cette commission, quand la commission a présenté son premier rapport, qui a d'ailleurs été renié par le Burundi, qui a dit qu'il était biaisé, il fallait trouver un bouc émissaire. Et je pense que j'avais un profil qui collait très bien à la situation. J'ai travaillé à Genève et quand j'étais au Mali, mon chef, c'était un ancien président qui est d'ailleurs décédé. Donc il fallait vraiment trouver un personnage qui pouvait bien coller à la situation. J'ai été taxée de collaborer avec le président de la commission interministérielle d'enquête dans le temps. Et vous savez, le meilleur moyen d'attaquer une femme, c'est sur sa sexualité. Et donc, comme quoi, le rapport était biaisé parce que le président de la commission, qui je ne connaissais même pas, avait des affinités avec une certaine Burundaise. Et du coup, les détracteurs, ils ont utilisé Twitter, Facebook, ils ont posté, ils ont collé des photos. Il y a des messages qui ont été tweetés plusieurs fois, vraiment pour m'intimider. Voilà, donc je crois qu'il n'y a pas de limite pour s'attaquer aux femmes.
Ça a dû être très dur à supporter à l'époque, psychologiquement parlant. Comment avez-vous supporté cela ?
C'était très, très dur. Bah, je parlais avec des amis, j'ai eu l'appui des amis, j'ai eu l'appui psychologique des autres femmes défenseurs qui m'appelaient souvent, voir comment j'allais. Puis après, ça s'est calmé. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Surtout que c'était une période très difficile pour tout le monde, pour tous les activistes, femmes et hommes. Donc c'était une période où tu ne savais pas ce qui pouvait arriver.
Féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi à travers le regard des femmes et des jeunes.
Chantal Moutamouriza, vous avez créé ACAT Burundi, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. À l'époque, vous avez connu les conditions des personnes emprisonnées et vous avez aussi apporté une aide légale à ces détenus. Qu'est-ce que vous retenez de cette époque ?
Bon, même si l'ACAT a été suspendue au Burundi, comme la plupart des associations indépendantes, elles opèrent toujours en exil. Ce que je peux retenir, c'est qu'il y a eu des années de gloire, si je peux dire ça, par rapport aux actes de torture et tout ça. Suite à la crise qui a commencé en 1993 jusqu'à dans les années 2003-2005, comme ça, il y a eu quand même un élan d'activisme et comme il y a eu beaucoup de sensibilisation, de formation par rapport aux actes de torture, il y a eu une époque où les actes de torture avaient beaucoup diminué. Il y avait beaucoup de formation à l'endroit des agents de la police et on faisait des monitoring des lieux de détention. C'est ça que je peux retenir avec d'autres. Il y a eu beaucoup d'autres organisations comme APRODH qui militaient justement contre la torture et pour la protection des droits des détenus. Donc, à l'époque, je dois dire qu'il y avait une nette amélioration. Mais malheureusement, avec la crise qu'a connue le Burundi en 2015, tous les acquis ont été balayés Donc c'est vraiment cela que je retiens, que grâce à notre activisme et avec beaucoup d'autres acteurs, nos aînés qui ont commencé, ça avait porté des fruits. Quand on a fondé la CAT, on était très jeunes, on était encore étudiants. Mais quand on voit le cheminement que l'association a pu prendre et l'année aujourd'hui, il y a lieu d'être très fiers. Parce que même Anne Glive continue à être active, à plaider toujours pour les victimes de torture et de violences sexuelles.
Chantal Moutamouriza, on va revenir sur le Mali que vous avez évoqué tout à l'heure. Le Mali aussi, où vous avez travaillé par le passé, dans les années 2013. On connaît la crise donc à l'époque. La mission que vous avez menée là-bas avec l'Union africaine était assez particulière. Dites-nous un mot sur cela.
Vous vous rappelez quand il y a eu la crise au Mali, la grave crise politique qui a commencé en 2011, fin 2011-2012, où les islamistes ont failli descendre sur la capitale et il y a eu beaucoup d'exactions, surtout dans le nord, à Kidal, à Gao, à Tombouctou, à Ménaka. Et donc l'Union africaine a créé une mission de maintien de la paix, puis ça s'appelait AFISMA à l'époque. Et une des conditions que le partenaire avait donné à l'Union africaine, c'était de créer aussi une composante de droits de l'homme. Et je pense que ça a été la toute première fois que l'Union africaine mettait une composante où il y avait vraiment beaucoup de staff. On était une vingtaine d'observateurs de droits de l'homme. Donc on a été la toute première équipe qui était au sein des missions de maintien de la paix pour nous occuper que de la question des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il fallait faire des enquêtes, de la documentation par rapport aux exactions qui ont été commises au Nord. Et dès lors, toutes les missions de l'Union africaine ont cette composante. Après, il y a eu la mission en Centrafrique, qui est toujours à la composante droits de l'homme. En Somalie, il y a une grande partie des droits de l'homme. Au Burundi même, on avait envoyé une équipe d'observateurs droits de l'homme en 2017. Et donc, on s'est devenu quand même une tradition maintenant à l'Union africaine de s'occuper de la question des droits de l'homme.
Le militantisme pur et dur, l'activisme lorsque vous étiez plus jeune au départ, c'est à partir de là que je vais vous poser cette question. Quelles sont les qualités pour être une bonne militante selon vous?
C'est une très bonne question. Je crois que la première qualité, c'est avoir la conviction. On fait son travail parce que c'est quelque chose qui est vraiment en soi. On le sent dans ses entrailles qu'on veut mener une lutte, améliorer la situation des droits de l'homme. Il y a d'abord la conviction, le charisme, la détermination et surtout la persévérance parce que c'est dur. On est incompris, que ce soit par les décideurs. On est incompris même, parfois même par la population, parce que les droits de l'homme, c'est pas comme... quand je parle de l'autonomisation, quand je parle de l'éducation, c'est du concret. On le voit tout de suite. On paye la scolarité d'un enfant, l'enfant va étudier, il va finir, c'est tout. On donne un microcrédit à un groupe de femmes, elles vont travailler. Les résultats peuvent être faciles à atteindre. Mais quand on parle de droits de l'homme, c'est un travail de longue haleine. Ça demande de la persévérance et ça prend beaucoup de temps pour avoir un changement aussi minime qu'il soit. Donc, si je peux résumer, il faut d'abord la conviction, il faut la détermination, il faut la persévérance.
Justement, Chantal Moutamouriza, lorsqu'on est militant, il faut convaincre les autres. Il faut parfois même embêter les gens. C'est ce qu'on fait, je pense, régulièrement. Il faut aller bousculer les politiciens, tous les acteurs qui peuvent faire changer les choses. Donc, quelle est la technique pour faire un bon plaidoyer? Comment on fait pour convaincre les autres, tous ceux qui sont censés agir, et pour parvenir vraiment à les toucher, à ce qu'ils emboîtent le pas, ceux qui ont le pouvoir de faire changer les choses?
Alors, c'est une question très difficile, Nathalie. Mais moi, je dirais que la première chose, les militants de droits de l'homme se basent sur les textes qui existent, que ce soit les textes internationaux, que ce soit les textes nationaux. On se base sur ça pour faire un dossier de plaidoyer. On montre aux politiciens, aux acteurs, voici, vous êtes engagés à respecter ces droits à travers ces textes. Maintenant, il faut respecter vos engagements. Ça, c'est un. Et puis de deux, Il faut leur montrer que c'est pour leur bien, c'est pour le bien de leurs enfants, c'est pour le bien de la population qu'ils sont censés représenter. Malheureusement, je crois que l'humain oublie très vite quand on regarde dans nos pays africains, ou si je regarde le Burundi, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils étaient persécutés hier. Et ceux qui sont en train d'être persécutés aujourd'hui, ils étaient au pouvoir hier. Et donc, on devrait utiliser ce plaisir pour leur montrer que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ça peut leur arriver demain. C'est vraiment construire une histoire qui soit compréhensible pour tout le monde.
Chantal Mutamuriza, quel est votre plus grand défi à l'heure actuelle?
Mon grand défi, c'est que maintenant, je suis à la tête d'une ONG qui est relativement nouvelle. Elle a seulement à peine 5 ans. Et c'est difficile de mobiliser les ressources parce que les donateurs, ils veulent toujours voir ce que tu as déjà accompli. Donc, le grand défi, c'est vraiment se faire entendre quand on est une ONG encore jeune. J'ai créé d'autres ONG, mais j'étais encore très jeune. Peut-être que j'étais encore naïve, mais aujourd'hui, je trouve que c'est encore plus dur. Donc, c'est surtout avoir des ressources. Et surtout, quand on est africaine, on est une femme, on est en Afrique, c'est difficile parce qu'il y a toujours cette injustice quand on est en train de mobiliser les fonds et qu'on est en Afrique, en tout cas quand on est dans les pays du Nord, je dois le dire. Et puis, la deuxième chose, c'est que je travaille dans un domaine assez complexe, qui est le domaine des réfugiés. Les problèmes sont énormes et les ressources sont minimes.
Chantal Mutamuriza, quel est l'accomplissement dont vous êtes la plus fière aujourd'hui?
C'est de deux sortes. D'abord, c'est que quand je vois les enfants qui vont à l'école, je peux donner un exemple concret. Il y a un jeune qui est maintenant en train de faire l'université. Il est en première année de pharmacie. Son rêve, c'est de faire la médecine. Et on l'a accompagné. Ça fait 5 ans maintenant. Il a été le premier de son école lors de l'examen national. Lui, c'est un exemple. Mais il y a plusieurs exemples dans le domaine de l'éducation. Quand on voit qu'un enfant qui, si on n'était pas là, il n'aurait pas pu étudier, ça, c'est vraiment pour moi le meilleur accomplissement. Je me dis, si je suis venue en Ouganda, même pour un seul enfant, et que je vois que cet enfant est passé d'un point A à un point C, j'en suis fière. Et dans le domaine des femmes, je peux donner une femme en particulier qui a été victime de violences sexuelles, vraiment très, très violente, très violente. Elle est d'ailleurs dans une vidéo qu'on a faite, quand je l'ai rencontrée, elle était complètement brisée. Elle n'arrive même pas à parler. Elle a subi une violence atroce. Je ne peux pas raconter ce qu'elle a vécu, mais je ne voyais pas comment une telle personne qui a tellement souffert, qui a tellement mal, son mari l'a abandonnée, son mari est resté au pays, elle était ici avec ses 3 enfants, avec toutes les conséquences liées à son viol avec violence. Et donc, grâce à l'interview qu'on a faite avec elle, on a pu avoir du soutien. Donc, on lui a trouvé un psychologue, on a pu lui donner un petit capital. Donc, elle a maintenant reconstruit sa vie. Et aujourd'hui, je peux dire qu'elle a vraiment guéri et du coup, elle a créé une association pour les victimes et c'était ça son rêve. Et donc, quand je la vois aujourd'hui, je suis vraiment fière. Et si mon travail ne consiste qu'à aider une seule personne comme celle-là, je dis ainsi soit-il.
Chantal Mutamuriza, merci beaucoup pour ces très beaux témoignages et pour votre travail. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et directrice de Light for All. On vous dit bon courage et à très bientôt.
Merci beaucoup Nathalie de m'avoir donné l'occasion de parler de ce qu'on fait ici pour pouvoir aider les gens qui en ont besoin.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. À bientôt et bon courage.
Arrête.